train de sable dans la machine.
Et passe les âges, le temps teste tes vertus.
Petit renard, il te faudra bien du courage pour pas finir perdu. L'espace et l'orage, derrière le soleil brille, as-tu vu? Si je te disais, tout peut changer, me croirais-tu?
Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Le Grain de Sable d'Attaque Québec. Bonjour Étienne.
Bonjour.
Il est question de quoi cette semaine?
C'est la troisième et dernière partie de notre série d'émissions sur le système bancaire. Aujourd'hui, on va parler des solutions. J'ai le goût de discuter de comment on va reprendre le contrôle sur la situation.
Parce qu'il y en a des solutions.
Ah oui, il y a des solutions concrètes. On va en parler pendant toute l'heure qui suit. L'idée, c'est d'essayer d'avoir des banques qui vont être au service du monde ordinaire. Si je peux reprendre à mon compte un dicton qu'on entend souvent, comme de quoi si on s'occupe pas de la politique va s'occuper de nous. J'aimerais dire la même chose pour la finance. Si on s'occupe pas de la finance va s'occuper de nous et de la politique aussi parfois. Alors, on va discuter de ça aujourd'hui avec Dominique Bernier qui est avec moi, qui est militante écologiste.
Bonjour Dominique.
Bonjour.
C'est ce qui travaille du côté de la coalition pour que le Québec ait une meilleure mine, qui est aussi membre du CA d'Attaque Québec. En fait, on va essayer de sortir des sentiers battus pour parler de solutions dont on entend rarement parler, et essayer de changer un peu notre image de la finance pour parler de à quoi elle pourrait ressembler. Moi, je pense surtout aux banquiers dont on devrait changer l'image, qui devrait ressembler moins à une espèce de jeune requin assassin qui essaie de gagner le plus possible, le plus rapidement possible. On devrait peut-être plus se rapprocher d'un modèle plus, tranquille, proche du monde, lent et prudent, qui reprendrait peut-être la règle d'un homme de la finance qui est très connu, qui s'appelle Warren Buffett, qui lui avait fait une règle pour ce qui est des produits financiers. Si on ne comprend pas c'est quoi, on ne le fait pas. Une règle assez simple que j'aimerais voir plus répandue.
Mais, si seulement c'était suivi, ça ferait.
Oui, ce serait très agréable. Mais avant de discuter des projets qu'on a croisés dans nos lectures, je crois qu'on pourrait passer une pause musicale d'abord.
Oui, on va écouter les 8 babins. Reste cool, Raoul.
À terre, y'a pas rien que du vice. J'ai plus le temps non plus de perdre son temps. Paraît qu'il y a des délires qui peuvent te tuer lentement. Mais Raoul, tu déboules, tu t'écroules, alors prends-toi. Faudrait peut-être que t'apprennes à marcher avant de penser à crever. Faudrait peut-être que tu fasses un homme de toi. T'as qu'à rester cool, Raoul. Pendant les saisons des boules, t'as qu'à choisir ta foule. T'as rien qu'à rester cool, Raoul.
Reste cool, Raoul.
T'as qu'à foncer, Raoul. Quand tu sens que ça coule, quand tu sais que ça roule, t'as rien qu'à rester cool. Tu gruges lentement. Et si tu restes là à rien faire, Raoul, c'est toi qui crée ton propre enfer. Puis même si je le sais, c'est plus facile de se taire, Raoul. Faudrait peut-être que tu sois moi amer et t'as qu'à rester cool, Raoul. Pendant que les saisons déboulent, t'as qu'à choisir ta foule. T'as rien qu'à rester cool.
Rester cool.
Reste cool, cool, Raoul. Alors, Étienne, je vous laisse la parole.
Oui, je voulais d'abord parler des banques publiques, ce qui est un modèle assez intéressant. Moi, le cas que l'exemple très intéressant que j'ai vu, c'est la Banque du Dakota du Nord, une banque dont on entend rarement parler, qui est pourtant vieille de 96 ans, presque centenaire en fait, et qui est une caisse de dépôt pour les taxes qui sont collectées par cet État-là aux États-Unis, qui est le Dakota du Nord. Et c'est pas une banque qui accorde des prêts, mais elle est là pour soutenir l'économie du Dakota du Nord. Son but premier, c'est le développement économique local, soutenir l'industrie, soutenir l'agriculture dans ce coin de pays-là. Et aussi, son second but, c'est de redonner de l'argent à l'État du Dakota du Nord. Alors, sur les profits que cette banque-là fait, la moitié reviennent directement au gouvernement du Dakota du Nord. Et il leur accorde aussi des dividendes spéciaux quand le pays traverse des récessions ou est en difficulté, comme au début des années 2000. Et il peut aussi mobiliser des montants d'urgence lorsque, par exemple, il y a eu des inondations dans cet État-là. Et son fonctionnement, c'est bien simple, c'est qu'il aide des banques locales, des petites banques qui sont dans cet État-là du Dakota du Nord. Ces banques-là font des prêts pour les étudiants, les entreprises et tout. Et ensuite, cette banque-là, publique, gérée par du monde, des fonctionnaires finalement, vient à la rescousse de ces petites banques-là pour mobiliser de l'argent en plus. Alors, admettons qu'ils ont besoin de faire des gros prêts à des compagnies locales, eh bien, cette banque d'État-là regarde le projet, se dit « ce projet-là est intéressant, il sera profitable, viable, utile, parce qu'il y a le critère d'utilité sociale. Eh bien, très bien, on va mobiliser de l'argent pour aider ces petites banques privées et locales-là à ce que les projets réussissent, à ce que les projets aient assez d'argent. » Alors, ce n'est pas une banque qui prend des initiatives ou qui invente des produits complexes. Il est là pour soutenir des projets qui sont bons pour l'industrie locale. Et finalement, si je résume les avantages de la situation avec cette banque-là, c'est que c'est un exemple intéressant. Ça nous dit aux Américains, surtout, là, ça leur dit que Wall Street, ce n'est pas tout. C'est pas le seul horizon possible. Parce qu'il existe une banque là, dans le Midwest qui se comporte prudemment, qui est profitable sur la durée, hein, presque 100 ans, il faut le rappeler, en faisant habituellement plus de profit que des banques privées de taille similaire. En faisant ça, c'est ça, pendant près d'un siècle. Et aussi, ce qu'il faut relever, c'est qu'elle a évité soigneusement les subprimes. Pour ceux qui l'auraient oublié, c'est des espèces d'hypothèques toxiques de gens qui ne pouvaient pas s'offrir des prêts hypothécaires pour leur maison, des produits toxiques qui ont causé la crise de 2008. Bien, cette banque publique-là, par des fonctionnaires qui se travaillent là de longue date et dont la prudence est peut-être la valeur capitale, eh bien, ils ont évité les subprimes. Et même si on regarde tout cet état-là du Dakota du Nord, les subprimes n'ont pas eu une grande ferveur, là, n'ont pas vraiment trouvé de preneur au Dakota du Nord. On voit que c'est très utile pour un marché bancaire que d'avoir une banque d'État comme ça qui mise sur le conservatisme, la prudence, qui évite les produits complexes. Et aussi, ça permet à de petites banques d'exister. Si les petites banques ont des projets, ont des prêts, et que c'est l'État, finalement, qui vient les aider à avoir des prêts assez gros, ces petites banques-là vont pas avoir l'idée de fusionner les unes avec les autres, de s'agglomérer, de devenir grosses et incontrôlables, finalement de devenir des risques systémiques. Alors, c'est vraiment ça que je voulais relever. L'intérêt, c'est, si on penserait au Québec, admettons, on pourrait penser aux régions qui sont inquiètes pour leur avenir, pour revitaliser leur industrie, leur économie. On pourrait peut-être penser à des banques régionales qui seraient gouvernementales, publiques, et qui soutiendraient des petites banques locales pour des projets qui font sens, qui ont une utilité publique, et qui finalement qui seraient soutenus par des fonctionnaires locaux là, qui connaîtraient la situation, qui connaîtraient le terrain. Et qui ne se laisseraient pas tromper par des chiffres parce qu'ils vivent sur le terrain, là, carrément. Moi, c'est vraiment ce qui m'a intéressé, une banque qui s'intéresse à sa région, qui finance des projets pour sa région auprès de banques privées de sa région, finalement.
C'est vrai que ça manque manque un peu dans le paysage financier.
C'est ça. Le paysage financier, ça ressemble plus à la City à Londres ou à Wall Street, mm-hmm. des espèces de centres surdimensionnés, très loin de la base, très loin du monde ordinaire et qui interagit avec le reste du monde qu'à travers des chiffres et des statistiques sans vraiment avoir une idée réaliste de ce qui se passe sur le terrain et de quelles sont les bonnes idées, quelles sont les mauvaises idées. Mais ça, c'est plus un exemple que je donne pour un cadre régional. Pour aider un petit état, le Dakota du Nord, c'est pas très gros, c'est pas très populeux. Les régions du Québec aussi, ce serait un modèle intéressant pour elles. Mais si on parle plus d'un pays pris dans son ensemble, je pense que là, c'est plus le gouvernement qui devrait s'impliquer, par exemple, en reprenant, je dirais, le contrôle sur la création monétaire dont on parlait. Et c'est de ça que tu es venu nous parler aujourd'hui.
Oui, mais en fait... c'est une initiative qui est actuellement à l'étude en Islande. Bon, on sait que l'Islande, c'est pas un gros pays, mais c'est un État souverain. C'est un État qui a fait de grands changements dans son système financier, qui a même mis des banquiers en prison lors de la crise de 2008, qui a refusé les programmes d'ajustement structurel du FMI, qui a décidé plutôt... De repenser en fait carrément la constitution du pays, et ils se sont sortis haut la main de la crise. Ils ont été beaucoup moins touchés que des pays comme la Grèce, par exemple, qui ont suivi les recommandations des grandes instances internationales. Donc, il y a un rapport qui est sorti récemment, qui a été commandé par le gouvernement d'Islande et qui s'appelle justement pour une réforme monétaire, pour un meilleur système monétaire pour l'Islande. Traduction libre et mal faite, mais bon, c'est un peu ça l'idée. Et c'est un rapport qui va quand même qui pose des constats très, très intéressants sur la façon dont la monnaie est créée actuellement, qui montre les limites de ça, les problèmes que ça engendre, et qui fait la promotion d'un système qui s'appelle le système de monnaie souveraine. Donc, c'est essentiellement la reprise par l'État, par la Banque centrale, devrais-je dire, de la totalité du pouvoir de créer la monnaie. Donc, je peux peut-être faire un petit résumé, en fait, de ce qui est présenté dans ce rapport-là. Je pense qu'on pourra peut-être le mettre sur le site aussi,
ben,
si les gens veulent le consulter.
Je pense qu'on va remettre ce résumé-là après la pause musicale.
Parfait.
Slashish Revolution, c'était les Hopla Guys, c'est un groupe alsacien. Étienne, je vous laisse la parole.
Oui, on repasse au cas de l'Islande et du rapport qui ont sorti récemment. Vas-y, Dominique.
Mm-hmm. Les constats qu'ils dressent essentiellement, c'est que le fait d'avoir cédé aux banques privées l'essentiel de la création monétaire, parce qu'en Islande, comme partout ailleurs, c'est environ 90% de l'argent qui est créé à partir de rien par les banques privées. Ça a causé un grand nombre de problèmes monétaires, incluant l'hyperinflation des années 1980, l'inflation chronique en Islande, la dévaluation de la couronne islandaise, qui est un problème important, des taux d'intérêt très élevés, le fait que le gouvernement perd une grande partie de ses revenus qui serait autrement lui serait versé par la création monétaire parce que ce serait payant créer la monnaie.
Oui.
Et ainsi, de même que la dette grandissante, autant la dette publique que la dette du secteur privé. Donc, on voit que c'est des problèmes quand même fondamentaux, puis c'est des problèmes qui, actuellement, sont utilisés comme prétexte pour couper dans les programmes sociaux. Donc, c'est quand même intéressant de se pencher sur cette question-là. Et c'est ce que l'Islande a fait. Dans le fond, le système de monnaie souveraine, ce que ça ferait en gros, c'est que la banque centrale serait exclusivement responsable de la création de la monnaie nécessaire pour supporter la croissance économique. Actuellement, la banque centrale peut seulement essayer d'influencer la quantité de monnaie créée par les banques privées en ajustant les taux d'intérêt, en demandant d'avoir un peu plus de réserves en banque parce qu'elle est responsable comme des réserves, mais fondamentalement, le système est vicié parce qu'il encourage les banques à prendre des risques. Il encourage les banques à prêter beaucoup et à créer beaucoup de monnaie puisque l'argent est créé par les prêts bancaires. Donc, il y a toujours davantage d'argent qui est créé que ce qui est nécessaire. Puis ça cause la dévaluation puis l'inflation de la monnaie. Fait que c'est quand même intéressant de voir ça. En Islande, dans le rapport, ce qui est spécifié, c'est que sur une période de 10 ans, les banques privées ont créé entre 6 et 19 fois trop de monnaie par rapport 19 fois quand plus même. Que la croissance économique. Donc, ça fait trop d'argent en circulation. Puis selon le rapport, le seul moyen de reprendre le contrôle de tout ça, c'est de faire en sorte que seule la banque centrale puisse créer la monnaie et redonner aux banques privées un rôle plus d'intermédiaire, c'est-à-dire de faire en sorte de donner les prêts, d'accorder les prêts, d'intermédiaire entre les déposants et les prêteurs et les emprunteurs, finalement. Rôle qu'ils auraient dû avoir depuis longtemps et qu'on pense, la plupart des gens pensent que l'argent qui nous est prêté, c'est de l'argent qui a été déposé par d'autres personnes, mais c'est pas du tout le cas actuellement. Donc, c'est ce rôle-là qui leur serait redonné. Puis ça, en fait, j'ai fait des petits calculs. Là, il y a des chiffres qui sont présentés dans le rapport qui sont super intéressants, qui montrent que, dans le fond, ça générerait des revenus très, très importants pour l'État. Et ces revenus-là pourraient être remis en circulation par le gouvernement dans l'économie via des dépenses gouvernementales augmentées, dans les différents programmes sociaux, des chantiers aussi... on pourrait penser à un chantier pour une transition énergétique, par exemple, ce genre de choses-là. Ça peut être remis en circulation par des réductions de taxes et d'impôts aussi. Ça peut être fait en repayant la dette publique ou bien en payant aux citoyens un revenu de citoyenneté, dans le fond, un dividende par tête de PIB de la population. Donc, dans le fond, l'argent dont l'État islandais se prive, ça équivaut à 2 milliards de couronnes. Là, c'est à peu près 200 millions canadiens. Ça paraît pas beaucoup, mais ça représente 1% du PIB, parce que l'Islande, c'est un petit pays, c'est 325 000 habitants.
Ouais.
Donc, là, c'est 1% du PIB. Si on transférait ce 1%, si on faisait la même chose au Québec et qu'on considérait, c'est sûr que c'est une extrapolation, il y a d'autres paramètres à tenir en compte. Mais si on prenait 1%, mettons que ça donne la même chose au Québec, 1% du PIB du Québec, ça équivaut à 363 milliards de dollars canadiens par année.
Oui, c'est un montant intéressant.
C'est un montant intéressant. C'est 3,63 milliards, je m'excuse. 363 milliards, c'est le produit intérieur brut du Québec. Donc, 1% de ça, c'est 3,63 milliards. Mais c'est quand même beaucoup d'argent. Sur un budget total, là, dans le fond, du Québec, qui est de des dépenses consolidées de 100 milliards, c'est quand même plus, presque 4 % là, des dépenses. On sait aussi que, dans le fond, ce qui est présenté dans le rapport, c'est que pendant la période de transition entre la situation actuelle et le moment où la dette, où c'est-à-dire l'argent serait complètement de l'argent créé souverain, de la monnaie souveraine, il y aurait un gain pour l'État de 300 à 400 milliards de couronnes islandaises, c'est-à-dire un cinquième du PIB. Donc, encore là, si on extrapole, pour le Québec, mettons que la période de transition était de 10 ans, je ne sais pas combien de temps ça prendrait, c'est un montant qui serait qui permettrait de générer, dans le fond, 72,6 milliards de dollars. Et ça équivaut, dans le fond, au tiers de la dette du Québec, ce qui est quand même pas rien. C'est un montant qui permettrait d'effacer une bonne partie de la dette. Et pour le Canada, ça représente 434 milliards de dollars, donc environ aussi le tiers de la dette. Puis, pour faire un comparatif, environ les trois quarts des dépenses globales d'une année. Donc, on voit que c'est des fonds intéressants, mais non seulement des fonds, mais en même temps, c'est une façon de reprendre le contrôle sur l'économie du pays. Oui. Parce qu'actuellement, ce sont les banques privées qui décident ce qui est financé ou pas.
Exactement. Et le cas de l'Islande est intéressant parce que moi, quand j'en entendais parler, je pense que les Islandais eux-mêmes disaient qu'ils étaient devenus une espèce de peuple de banquiers. Ils étaient allés à fond dans cette idée-là de « on va devenir les banquiers de l'Europe, de l'Angleterre » finalement. Ça leur a explosé à la figure. Alors, ils doivent se réinventer. Mais... alors, c'est vraiment intéressant que ce qui est un peuple qui se disait un peuple de banquiers essaie de penser à un nouveau système. Je crois que ce qui m'intéresse le plus, c'est le mot de souveraineté aussi, parce que c'est une reprise de pouvoir, finalement.
Exactement.
Celui qui tient les cordons de la bourse, finalement, qui tient la création de l'argent, il a le pouvoir là, de facto, là, forcément. Alors, un gouvernement qui reprend le pouvoir sur la monnaie, sur l'argent... Il peut prendre des décisions. Il arrête d'avoir les mains liées.
Exactement.
Les avantages politiques sont évidents, très intéressants.
Oui, puis c'est un rapport qui est très bien documenté, qui repose sur des écrits officiels. Là. Ça ne sort pas de la tête du chercheur, là, M. Frosty, je vais dire son nom correctement.
Ouais.
C'est un nom qu'on n'est pas habitué de prononcer. Frosty Sigurjonsson. C'est un chercheur quand même bien connu du pays et tout. En fait, tout le rapport est documenté à partir de sources officielles, comme par exemple la Banque de Londres, etc.
Oui.
Donc, des écrits officiels provenant des différentes banques centrales qui expliquent bien le fonctionnement monétaire.
Oui.
Et plusieurs citations apparaissent dans le rapport là, qui montrent que vraiment, c'est un fait connu que ça cause un grand nombre de problèmes, cette situation-là. Et malheureusement, toutes les tentatives de réglementer davantage... parce que c'est ça qui a été tenté en Islande et ça a été tenté un peu partout. Réglementer davantage la création monétaire, ça a toujours échoué. Parce que fondamentalement, l'État est obligé de garantir les dépôts.
Oui, c'est ça.
Est obligé parce que si tout ce système-là repose sur la confiance et il faut que les gens aient confiance que... si la banque fait faillite, ils vont quand même pouvoir avoir accès à leurs économies. Et comme c'est en général trois ou quatre grosses banques qui monopolisent le marché, s'il y en a une qui coule parce que les gens vont se précipiter pour retirer leur argent, ben tout le reste va s'effondrer. Donc,
tout s'effondre.
Donc, puis le fait que l'État se porte garant, ben ça fait en sorte que les banques se croient le droit, en fait, d'agir de façon imprudente. Voilà, c'est un peu
ça. Je pense qu'il faut vraiment essayer de réfléchir à un nouveau système où est-ce que, tout en haut du système, il y aurait l'État qui contrôle la monnaie et prend des décisions enfin économiques, qui ne se lie plus les mains lui-même pour des raisons vagues, en confiant la création monétaire exclusivement aux banques privées. Et je crois que ça fonctionnerait bien si on utilise tous les autres exemples intéressants. Par exemple, pour les régions, il y aurait des banques publiques, peut-être du genre à la Banque du Dakota du Nord dont je parlerai. Peut-être que pour aider la base, on utiliserait des banques de taille, je dirais, la plus petite possible. Toute cette idée-là, à l'origine du mouvement Desjardins, ça reste Alphonse Desjardins qui, dans le temps, au début des années 1900, réfléchissait à la misère du monde ordinaire. Il comprenait qu'il n'y avait pas accès à de l'argent. Alors, c'est de là que c'est né, les idées de petites caisses populaires, l'épargne locale aide le monde au niveau local. Je crois qu'il faut vraiment penser très sérieusement à ce sujet-là. Il ne peut pas y avoir un mouvement, je dirais, de gauche ou alternatif qui ne réfléchisse pas la monnaie et les banques.
Effectivement.
C'est des sujets intéressants. Pour l'instant, on va terminer notre première demi-heure là-dessus. La seconde demi-heure, on va jaser avec l'économiste Bernard Ely de Régulation bancaire.
CKRL 89.1.
Écoutez tous les lundis 18h30 l'émission de littérature Les bouquins d'abord. Cette émission vous est présentée par la librairie Pantoute. Fondée il y a plus de 40 ans par des passionnés du livre, la librairie Pantoute n'a jamais cessé de grandir pour devenir l'une des plus importantes librairies de fonds au Québec. Avec maintenant 2 succursales et plus de 50 000 titres en inventaire, Pantoute vous offre une grande diversité de livres. Romans, essais, BD, jeunesse, poésie, théâtre. Des livres qu'on ne trouve pas nécessairement ailleurs. Pantoute, c'est aussi une trentaine de libraires qui lisent, se renseignent, mais surtout vous écoutent et vous informent judicieusement. LibrairiePantoute.com, un service conseil reconnu depuis 1972 et des milliers de livres testés sur des libraires.
Vous avez envie d'entrer dans les rangs de CKRL? De partager vos connaissances musicales avec nos auditeurs? C'est maintenant le temps de soumettre vos projets pour la saison d'été 2015. Voici la marche à suivre. Rendez-vous dans la section « Proposer une émission » sur ckrl.qc.ca et remplissez le formulaire en ligne. Vous avez jusqu'au 3 mai. Bravo!
Après 2 ans d'absence de la scène musicale, Bob Walsh revient en force avec un tout nouveau spectacle, After the Storm. Le 2 mai prochain, la légende du blues québécois sera à l'Impérial Bell. Venez écouter son blues reconnaissable entre tous, teinté de folk et de jazz. This world has changed. Everything is rearranged. Bob Walsh à l'Impérial Bell le 2 mai. Billets en vente dès maintenant à imperialbell.com. Well, let me run and roll and satisfy my soul. Une production du Festival d'été de Québec.
Pour une 3e année, la Ligue québécoise d'impro BD prendra d'assaut la scène du Cercle pour présenter ses affrontements mensuels.
Prochain match, notre finale de la saison 2014-2015, dimanche 10 mai 20h au Cercle 228 rue Saint-Joseph-Est. Entrée, 5$.
La Ligue québécoise d'impro BD est une présentation du Festival de la BD francophone de Québec en collaboration avec CKRL.
Coucou!
Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? T'as pas d'école?
J'y vais pas, faut que j'apprenne mon texte. J'ai full texte à apprendre, je sais pas comment je vais y arriver. 2$ pour un billet. Ah ouais, pas de privilège.
Là, une pièce de Serge Boucher dans une mise en scène de Marie-Hélène Gendreau, présentée au Théâtre du Conservatoire d'art dramatique de Québec du 3 au 8 mai à 19h30. Billets disponibles au prix de 10$ pour adultes et 5$ pour étudiants. Informez-vous au 418-643-9833.
Au prochain tirage du loto 649, il y a un billet parmi tous les billets qui va valoir 1 million de dollars garanti. Et ça, c'est en plus du gros lot qui est évalué à 23 millions.
Les âges, le temps teste tes vertus.
Petit renard, il te faudra bien du courage pour pas finir perdu. Laisse passer l'orage, derrière le soleil brillas-tu. Si je te disais, tout peut changer, me croirais-tu?
Bon, ben, rebonjour tout le monde. Vous êtes toujours au grain de sable. Aujourd'hui, on va parler avec Bernard Ely, économiste, qui a coordonné avec Claude Vaillancourt un livre intitulé « Économie toxique, spéculation, paradis fiscaux, lobby, obsolescence programmée ». Bonjour, Monsieur Ely.
Bonjour.
Vous allez bien?
Ben, pas trop mal, et vous-même?
Très bien, merci. On va jaser aujourd'hui de vos propositions de régulation pour les banques canadiennes et les établissements de dépôt. Mais avant de passer à vos propositions comme telles, je pensais d'abord vous demander si vous pouvez nous expliquer ce qu'est le « too big to fail », une expression qu'on entend souvent là, de banques qui sont trop grosses pour qu'on les laisse faire faillite.
Finalement. Aller en faillite, oui. Ben, c'est, l'expression veut bien dire ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire que si on prend au Canada, il y a 6 grandes banques plus le mouvement Desjardins qui contrôle à peu près 90% du marché financier. Alors, si une de ces institutions-là fait faillite, l'effet sur l'économie canadienne et québécoise, donc, sera immense et par effet de contamination, d'autres institutions tomberont en faillite. Et ça serait une catastrophe pour le système financier et monétaire canadien. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est la création monétaire et le rôle des... la création monétaire relève des banques privées. Ou des caisses populaires. Et tout ce processus de création monétaire est absolument indispensable pour la bonne marche de l'économie québécoise et canadienne.
C'est ça, l'argent créé par les banques et les établissements de dépôt, ça représente tout l'argent, en tout cas la large part qui est utilisée.
Oui, c'est-à-dire que ce qui reste, là, les pauvres petits billets de banque maintenant en plastique, là, les pièces de monnaie, ça représente moins de 5% de ce qu'on appelle la masse monétaire.
Oui, moi je me demandais quel est l'effet sur les banquiers d'avoir toujours en tête cette idée-là que l'État va venir à la rescousse parce que leurs banques sont trop grosses, trop importantes pour qu'on les laisse crouler.
Oui, mais l'effet est le suivant, c'est-à-dire que quand vous êtes certain d'avoir du secours, vous allez peut-être être plus proche ou plus enclin à prendre plus de risques. Et donc, en ce sens-là, ça entraîne une baisse de l'aversion au risque, si on peut parler comme ça, de la part des banquiers, qui vont prendre plus de risques et qui peuvent entraîner des conséquences plus graves en termes de faillite. Et c'est ça qui s'est passé en 2008 aux États-Unis avec les hypothèques et les produits financiers nouveaux là qu'ils avaient mis sur place.
Oui, j'imagine que ça pousse à avoir une pensée à court terme, hein, pas la profitabilité à long terme.
Ah non, bien, c'est ça. Le problème avec le monde financier, c'est que l'analyse est vraiment à court terme. Et quand je dis à court terme, ça peut être 24 heures.
Hein? Oui.
Alors donc, en ce sens-là, il devrait y avoir, et ça c'est le rôle de l'État, d'encadrer les institutions financières, mais lors de la grande crise des années 30, il y avait des mesures qui avaient été prises pour encadrer le système financier, qui à partir des années 80, donc avec le retour de ce qu'on appelait les néolibéraux, chacune de ces mesures-là ont été affaiblies ou abolies. Et donc, les institutions financières se sont retrouvées dans les années 2000... à pouvoir faire ce qu'elle voulait, c'est ce qui a entraîné la crise de 2007-2008.
Ce qui est intéressant, parce qu'auparavant, les banques, ou plutôt les activités des banques, étaient séparées en trois. Il y avait la banque, l'assurance et les activités des courtiers qui étaient bien séparées. C'est quoi l'intérêt de diviser ces trois branches-là?
Donc, cette séparation-là avait été faite après la grande crise des années 30. Et l'objectif premier était de diminuer les risques de contagion.
Oui.
Alors que une banque peut tomber en faillite, c'est déjà arrivé, mais que ça n'entraîne pas une société de fiducie, une compagnie d'assurance ou n'importe quelle autre institution financière. Et donc ici, il était interdit aux banques à l'époque, jusque aux années 80, il est interdit aux banques de faire du courtage, donc d'acheter et de vendre des titres en bourse. Il est interdit aux banques de faire de l'assurance et de faire de la fiducie. Et alors qu'aujourd'hui, depuis qu'on a aboli ces contraintes-là, ben les banques, d'ailleurs, quand ils font leur publicité, ils se présentent comme groupes financiers. Et ces groupes financiers-là font à la fois de la banque traditionnelle, des opérations d'assurance, de la fiducie et du courtage et toutes les opérations financières qu'on peut faire. Et donc, ça a entraîné une concentration des acteurs financiers dans les 6 grandes banques et plus le mouvement Desjardins dont on parlait au début de l'entrevue.
C'est ça. Rassembler toutes ces activités-là dans une même compagnie, de fait, ça les rend énormes, ça les rend plus grosses.
Ben, c'est ça.
C'est ça.
C'est-à-dire que là, les actifs, donc ce que possède ou ce que contrôle la Banque Royale ou la Banque de Montréal pour, et sans vouloir vexer, bon, la Banque de Nouvelle-Écosse, ouais, la Banque impériale de commerce, etc., Toronto Dominion, la Banque nationale et le mouvement Desjardins, ce sont des sommes gigantesques. Et on a bien vu, lors de la dernière crise, que même le gouvernement américain, qui était quand même dirigé par M. George W. Bush,
oui,
pas réputé pour son extrême gauche, est venu en aide aux grandes entreprises financières américaines, comme aux grandes entreprises industrielles aussi, GM par exemple, hein, et Chrysler. Et donc, ils étaient considérés comme étant des institutions qui étaient tellement, dont s'ils faisaient faillite, dont l'impact serait tellement terrible,
oui,
qu'il fallait que l'État intervienne. Et donc, ce qu'il faudrait pour l'avenir, c'est qu'on établisse une réglementation qui permette de voir venir des crises et qui interdise certaines opérations.
Oui, ce qui m'intéresse, quelles opérations ou transactions faites par les groupes financiers devraient être interdites?
Bon, certaines opérations, comme ce qui a été la cause de la crise de 2007-2008, c'est des titres qui s'appuient sur d'autres actifs pour établir leur valeur. Alors, par exemple, avec ça, la Caisse de dépôt et de placement du Québec a perdu 40 milliards de dollars. Alors, l'idée ici, c'est que une banque, une institution financière, regroupe un certain nombre d'actifs qu'elle possède et crée une sorte d'enveloppe qui regroupe ces actifs-là et dit, bon, mais ça, maintenant, ce sont un nouvel actif en tant que tel, et puis je vais saucissonner, couper ce nouvel actif-là en petites coupures, supposons, de 1 000 ou 10 000 $ et ouais, puis je les vends. Mais vous connaissez pas nécessairement la qualité des actifs sur lesquels s'appuie ce nouvel actif-là. Et là, il y a un autre conflit qui rentre en ligne de compte. Les sociétés de cotation ou de notation, genre Moody's, Standard & Poor's ou Fitch, vont attribuer à ces nouveaux titres-là une cote qui est celle de la banque. Hein? Mmh. Mais les titres qui sont derrière ces nouveaux produits financiers n'ont certainement pas une cote aussi bonne que celle de la banque. Et donc, ça crée une obscurité, une non-transparence, et ce qui a amené de nombreuses pertes et la crise en 2007-2008, où la Caisse de dépôt et de placement qui avait acheté ce type de titre qui ne devrait pas exister, a acheté ce type de titre-là, et la Caisse de dépôt et de placement a perdu 40 milliards de dollars.
On a ici en studio Dominique Bernier, qui est du CA d'Attaque Québec, qui avait une question. Je lui laisse la parole.
Moi, je me demandais, M. Ely, si je me trompe pas, quand les gouvernements viennent au secours de ces grandes banques-là, ces grands groupes financiers-là qui sont sur le point de faire faillite, les gouvernements doivent emprunter sur les marchés financiers pour ce faire, n'est-ce pas?
Pas nécessairement, mais oui, ils peuvent le faire, oui.
OK, mais comme les États-Unis, là, en 2008, est-ce que c'est ça qui s'est produit? Est-ce que ça contribue à augmenter la dette des États, en fait? C'est un peu ça ma question.
Oui, bien sûr. Surtout, bon, en Grande-Bretagne, le gouvernement Cameron avait racheté un certain nombre de banques, nationalisé des banques. Aux États-Unis, le gouvernement américain avait soutenu un certain nombre de grandes banques, mais effectivement, selon le mode que l'on prend, ça peut augmenter la dette nationale. Et dans certains pays européens, comme qui aujourd'hui sont sous quasi-tutelle, comme l'Islande, l'Irlande, l'Italie, qu'on parle souvent, ou la Grèce, ou l'Espagne, ou le Portugal, ces pays-là ont augmenté la dette nationale pour soutenir le secteur financier. Et là, c'est pas une dette donc qui relève de l'activité des Irlandais ou des Grecs ou des Espagnols, mais des opérations très souvent internationales, des grands groupes financiers grecs, espagnols, italiens ou britanniques.
Oui, je pense que je vais vous poser une question sur le cadre canadien, parce qu'au travers de la crise de 2008, les rumeurs que je croisais souvent, c'est que le Canada, les banques canadiennes ont mieux traversé cette crise-là de 2008. Est-ce que c'était parce qu'elles étaient plus sages que celles des États-Unis, peut-être?
Non, non, c'est pas une question de sagesse, c'est une question de contrôle. Mm-hmm. Il y a deux institutions financières au Canada, deux institutions au Canada que M. Obama a rêvé pendant tous ses deux mandats de la présidence de créer aux États-Unis, mais avec un congrès républicain, c'est impossible.
Oui.
C'est ce qu'on appelle le bureau du surintendant des institutions financières à Ottawa. Il n'y a personne qui connaît bien ça. C'est des gens discrets. Mais en réalité, c'est l'organisme de tutelle de toutes les institutions financières au Canada.
Oui.
Et il y a la Société centrale canadienne d'hypothèques et de logements. Alors, ces deux institutions-là, par les contrôles qu'ils exercent sur les institutions financières et en ce qui concerne la Société centrale d'hypothèques et de logements, sur le type de prêt hypothécaire, ont empêché les banques canadiennes d'aller dans les mêmes dérives que les banques américaines.
C'est ça, les produits subprime de personnes
qui pouvaient pas se permettre. Sur les hypothèques, par exemple, jamais la Société canadienne d'hypothèques et de logements n'aurait permis des hypothèques comme ils ont été faits aux États-Unis.
Je pense que c'est un exemple assez concret de la nécessité d'un contrôle sérieux des activités bancaires. Cette différence entre ce qu'ont subi les banques américaines et...
Oui, mais je ne sais pas si vous étiez assez éveillé à la chose économique en 2008-2009, quand tout M. Sarkozy, Mme Merkel, M. Obama, M. Bush, tout le monde disait qu'il fallait empêcher certaines activités dans les abris fiscaux.
Oui.
Il n'y a rien qui s'est fait. Ah, mais M. Sarkozy, avant le sommet de New York, avait fait un long discours condamnant et même excommuniant les États qui servent d'abris fiscaux. Et puis, il n'y a pas grand-chose qui a été fait depuis ce temps-là.
Oui, en fait, je me souviens du discours de Sarkozy. C'était assez mémorable. Ça semblait sincère. Difficile de le dire avec le recul.
C'est un peu comédien, lui. Mais c'est... M. Sarkozy se portait à la défense de la veuve et l'orphelin. Là. Hein?
Oui, c'est ça qui m'intrigue. Si on regarde la communauté internationale dans son ensemble, est-ce qu'ils ont franchi quelques pas pour réguler davantage les banques?
Oui, au niveau international, il y a l'organisme principal, c'est la Banque des règlements internationaux, la BRI, dont un comité qu'on appelle le comité de Bâle, parce que Bâle, c'est la ville en Suisse où se trouve le siège social de la BRI, est là pour édicter des mesures prudentielles aux institutions financières. Et sur ce comité de Bâle-là, tous les ministres des finances des grands pays industrialisés ou du tiers-monde siègent. Et la première réglementation qui a été faite datait du début des années 70, en 1973, lorsque un certain nombre de banques ont fait faillite au niveau international. Alors donc, on parle des règlements à l'époque de Bâle 1, et aujourd'hui, on est rendu à Bâle 3 et bientôt Bâle 4. Donc, ce sont des réglementations sur la façon dont les banques doivent comptabiliser leurs opérations et comment divulguer leurs activités. C'est extrêmement important, mais c'est encore très timide parce que, compte tenu du fait que les banques contrôlent tout un champ financier, c'est extrêmement délicat et difficile de pouvoir bien saisir l'activité véritable de ces institutions.
C'est ça. Est-ce que Bâle 3, est-ce qu'il y a quelque chose de concret derrière ça?
Oui, il y a des normes de risque et des coefficients de risque accordés à tel ou tel type d'opération qui nécessitent à l'institution en question de détenir un certain nombre d'actifs liquides ou de capital propre, donc d'avoir des actionnaires, pour garantir ou pouvoir garantir donc ces titres selon leur niveau de risque. Et ça, c'est nouveau, la notion de risque. On n'en parlait pas beaucoup avant les années 80 parce que l'activité internationale des banques n'était pas encore très développée.
Oui.
Mais aujourd'hui, rares sont les banques qui n'ont pas d'activité internationale.
Oui. Hein,
même les petites banques, comme la Banque Laurentienne, ont un peu d'activité internationale, mais les grosses banques, bon, la plus internationalisée, c'est la Banque de Nouvelle-Écosse, qui a des activités aux quatre coins de la planète. Et donc, c'est très difficile de pouvoir suivre à la trace les opérations, compte tenu de législations différentes, d'opérations plus ou moins transparentes. Et donc, le comité de Bâle, ou la Banque des règlements internationaux, de façon plus générale, devrait avoir des pouvoirs extrêmement plus étendus et élargis.
Mais
évidemment, les banquiers ne sont pas d'accord.
Oui, je les imagine réticents. Mais quand vous parlez de législations différentes, vous avez en tête les paradis fiscaux, j'imagine qu'on
entre
pense
autres,
souvent.
Mais aussi entre États, entre guillemets, qui ne sont pas réputés d'être paradis fiscaux, mais qui n'ont pas de mesures très coercitives ou d'inspection. Bon, les paradis fiscaux, c'est quand même les plus importants, c'est le Luxembourg, la Grande-Bretagne avec les îles anglo-normandes,
oui,
et les États-Unis avec des États qui sont très permissifs, comme le Delaware, par exemple. Alors donc, c'est pas d'obscures petites républiques des Caraïbes, là, qui sont uniquement qui servent uniquement de paradis fiscaux, mais il y en a, là, bien sûr,
oui,
mais c'est également dans des pays, entre guillemets, dits développé, là.
Oui, je vois que Michel Monette aussi a une question.
Oui, Monsieur Elie, j'ai une question à vous poser. Quand vous dites que les banquiers ne sont pas d'accord, ils n'ont quand même pas intérêt à ce que les clients, leur clientèle, soient rassurés parce qu'ils ne sont pas d'accord parce qu'ils préfèrent s'autoréguler, parce qu'ils ont une espèce d'organisme international d'autorégulation?
Non, ils n'ont pas d'organisme international d'autorégulation, mais bien sûr, ils préfèrent accepter des règles entre eux et procéder eux-mêmes à leur contrôle, ce qui est beaucoup plus facile que d'avoir un organisme étatique ou international qui va venir jouer dans leurs affaires. Et ça intéresse aucune entreprise, qu'elle soit bancaire ou pas, là. Alors donc, en ce sens-là, les banquiers veulent ou préfèrent eux-mêmes ou rassurer leur clientèle, hein. Mais tout ça est fait dans des opérations ou dans une vision de court terme. Il y a les banques, comme beaucoup d'entreprises du système capitaliste, ne raisonnent pas beaucoup plus que dans un horizon maximum de 4 ou 5 ans.
Parce que les dirigeants sont payés avec des actions?
Ah, ça dépend. Là, le mode de rémunération peut varier beaucoup, mais il y a eu, disons, une tendance dans les années 80, 90 et 2000 de rémunérer les dirigeants par des prises d'options sur des actions. Et donc, c'était très intéressant, c'est-à-dire que si vous réussissez à faire monter l'action, ben vous enrichissez vous-même de façon significative.
Oui.
Alors donc, et puis il y a aussi la rémunération de base baisse, là, qui peut atteindre de plus de 10 millions de dollars par année, là. Qui sait qui aurait besoin de 10 millions de dollars par année pour survivre? Alors, mais là, évidemment, leur rémunération est quelque chose qui existe et qui relève d'une pratique qu'on pourrait trouver un petit peu un petit peu trop généreuse. Mais rien n'empêche que en ce qui concerne l'activité des banques, leur rôle, c'est de s'assurer la fonctionnalité de leurs opérations à court terme, et il y a plusieurs facteurs de risque sur lesquels ils veulent jouer, qui entraîne une sorte d'opération qu'on appelle communément des opérations dérivées, ou sur les taux de change, les taux d'intérêt, ou sur le prix des matières premières, et ça devient une véritable une véritable foire, toutes les opérations financières où beaucoup de gens se perdent là-dedans, et essayer de contrôler ça, c'est très difficile sans organisme qui aurait les moyens de le faire, hein.
Oui, je crois que je terminerai sur une toute dernière question.
Allez-y.
Il faudrait, d'après vous, là, ce que vous écriviez dans votre livre, il faudrait une agence de notation mondiale et indépendante et publique qui permettrait justement d'y voir clair et d'évaluer les produits et les activités des banques.
Mais actuellement, c'est ça, il y a des agences de cotation ou de notation qui évaluent les pays, les entreprises, et en leur mettant des cotes, bon, je sais pas moi, A++, A+, A-, D, etc. Et donc, ces agences de cotation, de notation, ont un pouvoir extrêmement important. Et ce sont quand même des entreprises privées qui ont comme clients les gens qui vont être évalués. et donc, en ce sens-là, l'objectivité de ces agences-là a été remise en question à plusieurs reprises. Et il faudrait peut-être que il y ait au niveau international, rattaché, je sais pas moi, à la Banque mondiale ou au FMI ou aux deux, un organisme qui ferait la même type d'opération, mais de façon indépendante, et ça serait une entreprise publique qui n'aurait pas d'intérêt propre à mettre de l'avant. Et donc, et en ce sens-là, on aurait une certaine garantie du sérieux de la cote donnée à tel pays ou à telle entreprise à travers la planète.
Oui, c'est une suggestion.
Et donc, ça ferait partie d'une mesure qui serait importante de mettre en place. Mais là, il faut que tout le monde soit d'accord, de M. Poutine à M. Obama, en passant par le président Hollande, Mme Merkel et M. Cameron, s'il reste au pouvoir en Grande-Bretagne.
Oui, c'est ça. Ça permettrait, disons, de donner... Ben, c'est une proposition un peu plus concrète pour ceux qui ont des discours guerriers contre les banques ou les responsabilités, mais qui sont des leaders des pays.
Ce qui est délicat dans tout ça, c'est que les banques restent quand même au cœur du système monétaire et financier. C'est-à-dire que le rôle des banques dans la création monétaire et dans les opérations de prêts aux entreprises, aux particuliers, dans le quotidien et le cœur, le centre de l'économie capitaliste. On peut pas se débarrasser de ça avec une baguette magique et la gestion de tout ça est extrêmement complexe.
Oui.
Alors, c'est pour ça que j'ai essayé de vulgariser un petit peu ou de simplifier un peu l'analyse dans le petit bouquin avec Claude Vaillancourt.
Oui, et dans votre autre livre que vous avez écrit en 2002, le titre...
Ah, ça, c'est plus, disons, technique et spécialisé sur le régime monétaire canadien.
Oui,
il y avait également un autre petit livre, l'économie du désordre, il y a 2-3 ans, dans la même collection que l'économie toxique, où, avec Claude, on avait également apporté un certain nombre de réponses à des questions que les gens se posaient.
Ah, c'est très intéressant. Ben, je vous remercie de nous avoir parlé de ces sujets compliqués-là. Merci beaucoup pour
nous avoir éclairé. J'espère que je vous ai éclairé plus que mélangé. Et puis, au plaisir de se voir peut-être un jour.
Ah oui, au plaisir. Au revoir. Bonne journée.
Merci, au revoir. Au revoir.
Ils passent de bons moments, ils prennent des couleurs mais sont là pour le blanchiment. Le cache des dictateurs, la crasse des pollueurs, font flamber les valeurs dès les premières lueurs. Allez, 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 chantons pour les lois du canton. À Zouk, tout est permis, c'est une vieille tradition. Le mafieux est chez lui et le banquier est son ami. Tout comme sur le rocher, on reste en bonne compagnie.
Si tu deviens bandit, c'est pour voler les riches. Si tu deviens banquier, tu vas les autres voler. Si tu deviens bandit, c'est de la loi que tu te fiches. Mais le banquier est sans égal pour se moquer de la morale.
On a eu l'affaire du Crédit Lyonnais. Toi, tu n'étais pas né, moi, je n'étais pas étonné.
Bon, ben, pour terminer l'émission, je vais mentionner un événement qui se produit ce mois-ci. C'est la marche mondiale contre Monsanto et les OGM. Ça a lieu le 23 mai prochain. Ça commence à 14 heures. Le rassemblement va se faire à la place du Ville, près des Muses. La marche va revenir au point de départ à 16 heures. C'est une marche contre Monsanto et les OGM organisée par les Amis de la Terre de Québec et par Vigilance OGM. Pour les intéressés, vous pouvez vous rendre à cette marche-là et emmener des emballages de produits alimentaires que vous avez. Les gens de là-bas pourront vous regarder vos emballages et vous dire ces produits-là contiennent des OGM, ce qui est très intéressant.
Étienne, si vous permettez, je veux juste ajouter une petite chose avant qu'on termine l'émission. La semaine prochaine, ça va être uniquement musical, mais le 16 mai, c'est une émission spéciale, une émission sur la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Le 17 mai, au Carré du Jubilé, il y a une activité spéciale. On invite tous les gens à se rendre autour de 14 h au Carré du Jubilé.
Oui, venez nombreux. Je crois qu'on va se laisser sur cette note. Tout d'abord, si je peux résumer le sujet, c'est vraiment un sujet qui devrait être étudié, celui des banques et du système bancaire. Hein, ça maîtrise toute l'économie à l'heure actuelle. Je pense que tout mouvement, c'est ça, devrait considérer ça.
Téléchargez Le Grain de Sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.
KRL 89.1.
Alors, madame, est-ce que ça faisait?
Oui, mais je vais prendre juste le chemisier.
Donc, le chemisier. En plus, je vous donne un jeans, une veste cintrée, la jupe, un cardigan, une écharpe en soie, les deux t-shirts, un col roulé, une ceinture, le pantalon et le petit top en lin super mignon. Ça va être tout?
Attendez-vous à plus. Avec la carte boutique voir.ca, vous recevez jusqu'à 40% de plus chez vos marchands favoris. Passez-nous voir sur boutiquevoir.ca.
Après un retour réussi l'an dernier, la Ligue d'improvisation musicale de Québec bat son plein pour la saison 2014-2015. Regroupant de talentueux musiciens issus de la scène musicale de la Ville de Québec, les matchs mensuels sont présentés au Cercle.
Prochain match, le 4 mai.
Pour plus d'informations, la constitution des équipes, des tirages et bien plus, retrouvez-nous sur Facebook.
Passionné de vélo, découvrez la boutique Le Pédalier, le marchand aux services personnalisés. Depuis 30 ans, la boutique Le Pédalier répond autant aux exigences des pros que des amateurs. Les plus grandes marques, Kona, Felt, Marin, aux prix les plus avantageux. Une équipe de spécialistes et des conseils judicieux, c'est l'expérience que vous vivrez en vous rendant à la boutique Le Pédalier, 99 boulevard Bastien-Wendake, via Robert Bourassa Nord. 418-842-2734. Pédalier.ca.
Au lieu de plaisir, de rencontres et de culture à Québec, le Sacrilège, votre bar de quartier, prépare sa terrasse pour l'été. Au cœur du faubourg Saint-Jean-Baptiste, cette institution bat au rythme des nombreuses activités artistiques qui y sont présentées. Venez profiter des nombreux spéciaux offerts tous les jours et de sa terrasse unique. Rendez-vous au 447 rue Saint-Jean.
1, 2, 1, 2, 3.
Dans le cadre du Festival international de musique actuelle de Victoriaville, qui se tient du 14 au 17 mai 2015, CKRL est fier de co-présenter, en collaboration avec Voir Québec, le concert Marc Ribot, Ceramic Dog. Le samedi 17 mai à 20h, venez entendre la musique qui déménage du trio punk rock avant-gardiste au pavillon du Mont Arthabasca de Victoriaville.
Listen, man. People, they're fucking sleepwalking. They're just sleepwalking, man.
Pour plus d'informations ou pour acheter des billets, visitez fimav.qc.ca. En mai, c'est à Victo que ça se passe pour le 31e FIMAV.
Légendaire studio de Limoilou, CKRL présente le Guy